Alors, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de tenir les 30 minutes. Donc, moi, je m'appelle Marie Fliponneau. Je co-anime un séminaire à l'EHESS sur les textiles, mais d'un point de vue anthropologique et historique. Le séminaire que je co-dirige s'intitule « Les objets comme source, le cas des textiles ». Et je travaille avec Sophie Desrosiers, alors, qui, elle, est spécialisée sur les Andes, particulièrement, la Chine également, mais les Andes surtout. C'est une anthropologue des techniques, donc je rejoins ce que disait l'intervenante précédente, la lecture des techniques est extrêmement importante pour comprendre une société. Sophie Desrosiers dit souvent qu'on tisse un textile comme on tisse une société. Donc il y a des choses très, très parallèles et très similaires, même si c'est une métaphore. Moi, je suis spécialisée en anthropologie politique et économique, donc à une école d'anthropologie qui a été fondée dans les années 70 et qui met un point particulier à s'intéresser à l'histoire d'un point de vue anthropologique. Donc c'est pour ça que j'ai proposé cette communication qui couvre des siècles, une période historique très longue, mais parce que je pense que pour comprendre, y compris beaucoup de choses qui se passent dans cette partie du monde aujourd'hui, on a énormément besoin d'un travail historique pour pouvoir avoir des clés de compréhension, sachant qu'on est dans des territoires où il y a eu peu de fouilles archéologiques par rapport à d'autres endroits, où les textiles, notamment, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, sont quasi inexistants en termes de traces à cause de la conservation. Zones désertiques, zones très humides, et ainsi de suite. Et où pourtant, vous allez voir au cours de la démonstration, je pense que vous allez pouvoir faire des parallèles avec ce qui se passe, notamment autour des questions liées à l'islam dans cette région, et particulièrement Al-Qaïda au Maghreb islamique et Boko Haram, qui ont aussi une politique vestimentaire. On ne peut pas appeler ça autrement, malheureusement. Les périodes historiques ne se ressemblent pas, mais il y a des choses qui ont l'air similaires quand on regarde les choses sur le très long terme. Et les textiles permettent de regarder les choses sur le très long terme, puisque des éléments de conflit ou de tension anthropologique qui avaient lieu au 8e siècle, on le retrouve au 20e siècle sous une autre forme. Et les textiles sont une clé de lecture parmi d'autres, hein, mais c'est une clé de lecture. Donc voilà. Alors je m'excuse pour cette introduction un peu longue, mais comme je ne sais pas trop qui sait quoi sur cette région du monde, sur ce sujet-là, sur cette période, je préfère introduire un peu longuement. Donc j'ai intitulé la présentation « Le vêtement, c'est cela qui habille ». Alors c'est extrait d'un conte Peul que je vais vous lire dans quelques instants, qui est une sorte d'injonction. Qui cache derrière une forme d'idéologie aussi de ce que c'est que de s'habiller et de ne pas s'habiller, de ce que c'est qu'un vêtement, de ce que ce n'est pas un vêtement, et ce qu'est la culture, et ce qu'est l'état de sauvagerie ou de non-civilisation. Donc le propos, c'est dans cette démonstration de 30 minutes, je vais essayer, c'est de montrer que le vêtement, c'est... L'habit, ce n'est pas quelque chose qui se décrète d'en haut, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une injonction. Et pourtant, pour la partie du monde dont on parle là, l'Afrique de l'Ouest, sur la période qu'on va étudier, il y a ce passage de l'injonction vestimentaire, donc il faut s'habiller d'une certaine manière avec certains textiles, au désir du vêtement, c'est-à-dire que ça passe dans les populations, ça passe dans la masse, et il y a une massification des vêtements et une consommation du vêtement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'articulation, c'est comment on passe d'un ordre, voire d'une contrainte, pour certaines périodes historiques et certaines régions de l'Afrique de l'Ouest, à l'envie et le souhait et la recherche du vêtement dans la population. Donc voilà, je vais essayer de trouver des clés de lecture là-dessus. Donc ça suppose aussi de se poser la question de nous tous, parce qu'on parlait de l'intimité. Tout à l'heure, on disait qu'un textile reflétait l'intimité de celui qui le fabrique, mais ça reflète l'intimité de celui qui le porte aussi. Donc la question, c'est de savoir comment on peut comprendre ces phénomènes qui vont être massifs en Afrique de l'Ouest, le fait de se vêtir de vêtements de tissus tissés en coton, alors que ce n'est pas une pratique originelle, et comment est-ce que les gens individuellement vont se l'approprier. Donc je vais vous lire le conte dont je vous ai parlé en introduction. Ah oui, je vais peut-être commenter les trois photos rapidement. Donc vous voyez la masse de vêtements accumulés sur les personnes qui sont... alors pour le premier c'est une gravure, la deuxième c'est une photographie, le troisième également. Le premier est un commerçant Yoruba. Yoruba, donc Sud Nigeria, une gravure qui doit dater du 19e siècle. Les commerçants Yoruba, c'est une noblesse, hein, c'est des gens riches, c'est des gens qui commercent, c'est des gens qui ont le pouvoir, c'est des gens qui propagent aussi des formes politiques très spécifiques. Donc plus on accumule, plus on a du vêtement sur soi, plus on est quelqu'un d'important. On le voit sur la deuxième photo également, on est au sud de l'Algérie. C'est la photo coloniale, ce qu'on appelle un classique, où les gens posent devant le photographe avec leurs attributs et leurs plus beaux habits. Donc là aussi, on a une accumulation de textiles. C'est des gens qui sont aussi liés aux routes de commerce transsahariennes, donc qui sont sur des pôles caravaniers, ce qu'on appelle, et qui ont une certaine fonction politique et économique également. Donc là, on est vraiment de l'ordre du prestige, hein. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la différenciation entre vêtements du commun et vêtements de prestige. Et la troisième, donc, on est au Bénin, un chef coutumier lors d'une cérémonie qui, alors lui, accumule perles et textiles. À en devenir même, on voit plus le corps, en fait, tellement il est, voilà, avec des superpositions. Donc quand on dit le vêtement, c'est cela qui habille, c'est à prendre au premier degré, enfin, sur ces photos, c'est-à-dire ça habille beaucoup, en fait. Il y a des couches et des couches. Donc je vais vous lire le conte que... Alors c'est rare d'avoir des contes qui parlent, des contes africains qui parlent de choses très techniques finalement, et d'objets qui ont l'air assez communs, le vêtement. C'est pas des choses très ésotériques ou... voilà. Donc c'est un conte qui a été récolté par Régine Levrat, dans les années 70-80. 81, pardon, il lui avait été transmis par un père, le père Noy, dans la région de Maroua, donc qui est le Nord Cameroun. Donc c'est un conte Foulbé, donc les Foulbé, c'est les peuls. Donc voilà, je vous lis. Nous allons écouter l'histoire de l'homme et de sa femme qui étaient fabricants de vêtements. Cet homme resta longtemps chez lui jusqu'au jour où il entendit parler d'un autre pays très important, voyez-vous, une ville avec les villages qui en dépendaient. Tous ces gens-là ne savaient pas s'habiller avec des vêtements, mais soit avec une peau de mouton, soit avec une peau de chèvre, soit avec une peau de vache. Il dit alors à sa femme, « Voilà ce que sera désormais notre travail. Toi, tu fileras le coton, bien, et moi, je tisserai. Bon. Et mon camarade, lui, de son côté, il coudra. » Puisque c'est là notre métier et que nous pouvons l'exercer dans le pays où nous avons entendu dire que les gens se couvrent de peaux de bêtes et de feuilles d'arbres, allons voir ce pays et s'il accepte de nous accueillir, nous nous y installerons et nous ferons des vêtements. Il dit au chef, « Moi, voici ce qui m'a fait venir. Je suis venu te montrer mon métier, le travail que j'accomplis. » Il s'avança, prit son sac et le défi devant le chef. Il montra au chef le maillet de son métier à tisser, il lui montra la lisse, il lui montra sa pelote de fil, il lui montra sa navette et le fuseau. Il dit au chef, « Donne-moi un bon terrain pour que j'aille semer ces arbustes dont tu as vu les graines. Quand elles ont germé, elles donnent des feuilles. Et quand ces feuilles ont grandi, elles vont donner des fleurs, des blanches et des rouges. Et à l'emplacement de ces fleurs, quand elles sont tombées, il reste une boule qui ressemble aux dattes du désert. Et quand arrive le moment où cette date est mûre et que le soleil a donné, elle éclate et il en sort une chose blanche, et c'est cela qu'on appelle le coton. Il l'a parcouru, la brousse, il vient d'endroits fertiles, il coupa les arbres, débroussailla et y mit le feu. Les premières pluies arrivèrent, il tomba de l'eau, il prit son plantoir et avec sa femme et son compagnon, ils vinrent faire les semailles, puis le sarclage. Plus tard, ils firent le second sarclage. Ils nettoyèrent le champ, les plants de coton se développèrent et produisirent des fleurs. Il dit au chef, « Viens voir notre champ, tu vois, il est couvert de feuilles. Mais dans quelque temps, grâce à lui, d'ici 3 ou 4 ans, si nous restons ici, tous les humains qui sont dans ton pays, ils seront tous habillés et auront tous des vêtements. Car le vêtement, c'est cela qui habille. Vous quitterez vos feuilles d'arbres, vous quitterez vos peaux de bêtes, et ce sera bien. » Ils attendirent que les cotonniers éclatent, le chef envoya ses gens récolter le coton et le rapporter à l'homme. Sa femme égrenait le coton, lui-même l'égrenait aussi, jusqu'à ce qu'ils usent du coton égrené, et c'est ainsi que l'on a ce qu'on appelle les graines de coton. Sa femme se mit à le filer. Pendant 12 mois, elle fila jusqu'à ce que la quantité de fil soit suffisante pour faire une centaine de bandes de tissu. Il prit alors des tiges de mille, il prit une tige de mille longue de 6 coudées, ce qu'on appelle coudée étant la longueur qui va du coude replié jusqu'à l'extrémité de l'ongle du médius. Il vint tendre sur un banc de sable de la rivière suffisamment de fil pour 100 gabacs. Le gabac et la bandelette étant la même chose. Il tendit son fil et quand il eut fini, il le détacha et le rapporta chez lui. Il en fit une pelote et le mit de côté. Il décrocha la bobine de son métier et y attacha les fils jusqu'à ce qu'il eût fini. Il s'assit et se mit à tisser. Pour cela, il avait coupé 6 morceaux de bois en brousse. Il en avait fixé 2 devant, 2 derrière. Il en avait 2 en haut également et 2 sous la plante de ses pieds, ce qui fait 8 morceaux de bois. Il vint s'asseoir, il prit 2 morceaux de bois qu'il posa sur son bas-ventre et qu'il maintint ainsi. Il était assis et il tissa 100 bandelettes. Il les termina, il les découpa et il les raccrocha à son métier à tisser. Il appelle alors son camarade tailleur. Son camarade vint répondre à son appel. Ils prirent les mesures d'une gandoura. Il comprit la partie principale et les manches quand ce fut fini. Ils coupèrent le tissu et se mirent à le coudre. La gandoura étant terminée, ils découpèrent le col, puis ils martelèrent le tout pour l'assouplir. La gandoura, c'est une forme de boubou, en fait. Le chef sortit vers ses courtisans. Pof ! Tous les courtisans furent effrayés et s'enfuirent en disant « Mais ce n'est pas notre chef ! Cet homme est un loup-garou ! Notre chef avait des peaux de bête tout à fait comme nous et des feuilles d'arbres comme nos femmes et nous-mêmes. Et voilà qu'il sort avec des habits. » Les courtisans s'enfuirent. Le chef dit « Venez, 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 n'ayez pas peur, c'est moi. Nous avons la chance d'avoir un homme béni de Dieu. » Donc, lien avec l'islam. Hein. « Qui est venu pour nous faire entrer dans la civilisation. Il m'a fait des habits, il me les a fait à moi en premier lieu. Mais maintenant, vous tous aussi, vous suivrez à votre tour. » Donc, en dehors d'être un petit manuel de comment on cultive le coton, comment on transforme la fibre de coton, comment on la tisse et comment on porte un vêtement et comment on le coud, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une inversion, une mise en place des codes, c'est-à-dire ce qui relève de la culture, ce qui relève de la nature. Que le vêtement coton, qui nous paraît pour nous assez, enfin le vêtement tissé et cousu, qui nous paraît assez commun, et ici de l'ordre de l'extraordinaire, voire fait peur aux personnes qui sont là. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que le tisserand Peul ou Foulbé qui vient et qui veut propager le textile, il est dans une attitude de persuasion, de conversion au textile, exactement comme on convertit à la religion islamique dans ces régions-là à ce moment-là. Et le chef, lui, il est dans l'ordre. C'est-à-dire, il dit, vous allez vous habiller comme ça, vous allez suivre mon exemple et vous allez faire comme moi. On est dans l'ordre de l'injonction vestimentaire et de l'ordre. Donc voilà, ça c'est un document extraordinaire pour moi parce que c'est vraiment l'histoire mythique du textile telle que on le retrouve quand on lit les sources arabes, qui sont les principales sources qu'on a en fait écrites, et qui en fait se trouvaient évidemment toujours loin de la réalité. Il y a une partie de vérité, mais voilà, l'histoire officielle n'est jamais l'histoire des gens. Donc, je vais vous montrer, pour commencer, pour que vous puissiez situer l'Afrique de l'Ouest. Voilà, si c'est pas clair pour tout le monde. Ça, c'est les routes de commerce dont je parlerai ensuite, c'est pas très important. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans l'imagerie coloniale des années 20-30, donc ces photos sont extraites d'un recueil de photographies coloniales que j'ai trouvé chez un bouquiniste, on a la même construction et la même vision de ce qui habille, de ce qui n'habille pas, ce qui est de la nature, ce qui est de la civilisation. Donc là, on a une photo qui est prise en Centrafrique actuelle, donc anciennement Ubangi-Chari. Et alors, je vous lis ce qui est écrit en dessous, si vous ne voyez pas. Danse nocturne de nègres fétichistes autour d'un tam-tam. Et vous notez qu'ils sont, a priori assez dévêtus, exactement comme nous l'explique le tisserand Peul dans le conte. Ça, c'est la deuxième version de l'histoire, l'étape intermédiaire où on retrouve les feuilles, donc le raffia, les perles, les masques, c'est-à-dire qui est une partie du corpus vestimentaire des populations autochtones d'Afrique de l'Ouest avant l'arrivée de l'islam, mais qui est rejeté du côté de l'animisme et d'une culture qui n'est pas encore aboutie. Donc on le retrouve aussi dans le conte que je viens de lire. Et moi, je l'ai vu sur le terrain. Donc ça, c'est quand j'étais au Ghana, sud Ghana, région Ewe. Donc le Ewe était colonisé par les Allemands, par les Français, enfin bon, histoire coloniale comme on la connaît. Donc la région Ewe, la région d'où est originaire le Kente qui est un textile extrêmement complexe à tisser, très flamboyant. Donc il y avait évidemment un vêtement de prestige, ce que je classe dans les habits de prestige, et qui était un habit politique encore aujourd'hui. Et donc autour de ce Kente, il y a tout un tas de manifestations, et notamment à Agotime, Kpetoe, qui sont deux villages de la région Ewe où il y a les principaux tisserands de Kente. Il y a un festival tous les ans depuis maintenant plus de 10 ans où on remet en scène cette histoire du textile. Donc la mise en scène commence par une fille qui est presque nue, voilà, qui arrive avec sur la tête des objets pour signifier la migration des Ewe depuis le sud du Soudan jusqu'au Ghana actuel. Donc dans l'histoire des Ewe, c'est une période pré-civilisationnelle et où le textile n'est pas encore venu dans la population. Dans ce festival, on introduit à un moment donné la figure du tisserand, exactement comme je viens de vous le lire là dans le conte. Donc le tisserand, il se caractérise toujours, comme c'est écrit dans le conte, par ses lisses, par sa navette, par ses bobines de fil. Et le monsieur que vous voyez là, qui joue le rôle du tisserand dans la manifestation, est présenté comme ça. Donc c'est la figure qui apporte une partie de la civilisation textile. Et vous voyez à côté de lui sur la photo, alors à votre ici à gauche, un monsieur qui porte une smock, ce que Ghanéen appelle ça smock, c'est une sorte de chemise qui est d'origine islamique et qui a donné les fameuses chemises talismaniques dont on parlait précédemment pour l'Inde, puisqu'on retrouve cette pratique jusqu'aujourd'hui encore en Afrique de l'Ouest. Je parle des chemises talismaniques. Donc voilà, moi j'ai vu ça sur le terrain, je vois ça dans l'imagerie coloniale, je lis ça dans les contes. Donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'est passé à cette période et qu'est-ce qu'on a voulu propager quand on a propagé le textile. Alors je vais refaire un tout petit peu d'histoire, je vais aller très vite parce que c'est très complexe, c'est un peu... Donc au bout d'un moment peut-être un peu lourd. L'islam arrive dans cette partie du monde au 8e siècle. C'est un islam qui, de fait, va être tout de suite être un islam syncrétique dans le sens où il va se métisser avec les formes d'animisme présentes. On a très rarement des périodes où on a une propagation d'un islam originel et littéraliste. On a des périodes, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette confrontation avec une population qui est animiste et qui a d'autres croyances. À partir du XIe siècle, on a pas mal de voyageurs arabes qui viennent d'autres contrées du monde, qui portent témoignage de ce qu'ils voient dans cette région du monde. Et certains précisent et donnent des informations concernant les textiles. Donc on est du côté, encore une fois, des vêtements de prestige, du vêtement politique, du vêtement qui est censé montrer quelque chose à la population ou lui montrer en tout cas une voie à suivre. Donc je vais vous lire un court témoignage d'Al-Bakri, qui est un voyageur arabe du XIe siècle, qui se promène dans le royaume de Ghana, qui n'est pas le Ghana actuel, hein, qui était situé sur Mauritanie-Mali, et qui dit concernant le roi, donc on est aux alentours de 1068, du roi du Ghana donc, « Parmi les corps religionnaires du roi, seul ce dernier et l'héritier présomptif, c'est-à-dire le fils de sa sœur, peuvent porter des vêtements cousus. » Donc il y a des interdictions concernant les vêtements cousu ou non cousu. En tout cas, il y a une ligne de partage du pouvoir autour de ça. Les autres queues se revêtent de pagnes de coton, de soie ou de brocart selon leurs moyens. Ghana, la ville de Ghana, donc c'est l'actuel Kumbi Salé au sud de Mauritanie, est en plein cœur à ce moment-là d'échanges avec le royaume de Taert, qui est le Maroc actuel, une partie du Maroc actuel. Donc il y a des routes caravanières qui commencent à se bâtir, et c'est aussi pour ça qu'on a les mentions ici de matières qu'on ne trouvait pas localement. Le brocart, la soie, mais aussi le coton qui n'était pas cultivé alors dans cette région de l'Afrique. Tous les hommes se rasent la barbe et les femmes la tête. Leur roi se pare comme les femmes de colliers et de bracelets. Ils se coiffent de bonnets dorés autour desquels est enroulé un turban de cotonnade très fine. Donc, ça, c'est ce que voit Al-Bakri au XIe siècle. Il dit voilà comment s'organise le pouvoir politique autour du textile et comment le textile est utilisé comme une mise en scène du pouvoir également. Ensuite, au XVe siècle, on a un autre témoignage, à défaut d'avoir du textile, qui est issu d'un manuscrit de Tombouctou. Donc Tombouctou, je pense que tout le monde a entendu parler, des manuscrits aussi, une partie détruite récemment par Al-Qaïda. Donc là, on décrit dans ce manuscrit-là quels sont les bons principes de gouvernement. Et évidemment, il y a quelques lignes sur le textile, de ce qu'il incombe au roi de faire pour avoir la meilleure apparence possible. On est au XVe siècle, donc voilà ce qui est écrit. L'empereur a obligation d'avoir en permanence des tenues d'apparat. Il doit se parfumer, être endimanché tout le temps et se couvrir d'objets magnifiques avec toutefois des choses qu'autorise la loi islamique. Il faut bien éviter des choses pouvant l'efféminer. Donc, c'est relatif hein, comme notion. Bon. Et tout cela sans abuser du trésor public. Il ne doit donc pas se parer d'or, d'argent, à moins que ce ne soit obligatoire. Donc là, on est dans une période, 15e siècle, on est Empire Songhai, on est sur un empire qui est centré sur Gao, les routes de commerce se sont développées vers l'est de l'Afrique de l'Ouest, donc à l'extrémité. De plus en plus de biens de prestige circulent sur ces voies-là. Et donc là, on est dans un roi, on est sur un système de gouvernement où le vêtement doit être la magnificence, même si on parle de, attention, les finances publiques, c'est quand même un vêtement d'apparat. Donc comme très souvent dans ces histoires de pouvoir, il y a des oppositions politiques autour de ça, et certains chefs coutumiers et certains hommes politiques islamisés vont prendre le contre-pied de cette magnificence et de cette espèce de manifestation trop visible du textile. Et donc là, je vous lis un texte qui m'a été transmis par Bernard Salvin, qui a travaillé sur les manuscrits de Tombouctou, qui est un éloge funèbre de Sékou Amadou, qui était le fondateur de l'Empire Peul du Massina, donc au XIXe siècle. On est aux alentours de Tombouctou, je fais très très grossièrement, également. Et là, on est sur un principe de gouvernement par le textile qui est, pour moi, l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans la sobriété et l'ascétisme. Donc concernant Sékou Amadou, voilà ce qu'il dit. Parmi les manifestations de son ascétisme, la totalité de sa garde-robe, turban, boubou, chemise, robe, chaussures, n'atteignait pas la valeur de 7 dinars. Malgré tous les trésors et les biens de ce monde dont Dieu l'avait comblé. Tout ce qu'il portait comme sarouel n'était que la petite robe qui ne dépassait pas 3 ou 4 quarts de coudée. Donc encore une fois, la quantité de textile qu'on accumule sur son corps, c'est la manifestation ou pas de la magnificence. Et ceci pour se conformer à la sunna, donc la sunna c'est la tradition du prophète, et par modestie envers le Tout-Puissant. En hiver, il portait la même tenue qu'en été, et je n'ai jamais vu sur sa tête le grand bonnet rouge de cérémonie, sauf un seul jour, pour faire comprendre à ses sujets que cette tenue était licite. Il n'y avait ni vêtements de fête, ni de vêtements de tous les jours, mais s'habillait les jours de fête comme les jours ordinaires. Toutefois, il renouvelait sa garde-robe les jours de fête, d'après ce qu'on rapporte à ce sujet. Donc là, on a un chef politique, un homme politique, qui lui prend le contre-pied de tout ça, et qui est dans une politique de la sobriété vis-à-vis du textile. Mais il s'habille. C'est-à-dire, il a un vêtement tissé en coton, cousu, et qu'il porte quand il est en représentation politique. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, surtout pour intervenir dans ce séminaire, c'était d'essayer de voir comment on pouvait déconstruire ces sources-là, qui s'intéressent toujours aux hommes politiques de pouvoir. Et pour le reste, on a des choses assez voilà, on ne sait pas trop ce qui se passait ni dans la population, ni en réalité historiquement. Donc, je vais faire très vite. Alors, je vous ai mis un petit croquis qui est extrait des résultats de fouilles de François Paris, qui date de 93. Enfin, l'ouvrage date de 93. François Paris a fait des séries de fouilles pendant des dizaines d'années, de 77 à 85 de mémoire, à Mamamet, au nord du Niger. Il a travaillé sur des sépultures. Et la première fois qu'il trouve du textile dans les nombreux tumulus et tombes qu'il découvre, c'est cette robe et ce voile de cotonnade au-dessus. La robe est en laine, le voile est en coton. Alors, je n'ai pas la datation dans les résultats des fouilles du coton, pourtant c'est ce qui m'intéressait, puisque c'est l'islamisation va avec cotonisation. Les deux couples fonctionnent ensemble historiquement. La laine étant précédant la période d'islamisation. Mais en tout cas, pour la robe tissée, on est aux alentours du 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. Et je vais vous lire ce qu'il en tire comme détail technique et comme descriptif. La robe est teinte en rouge et vert, les motifs anthropiques du châle en bleu. Le rouge est obtenu à partir de garance et de noix, le vert par un mélange de gaude et d'indigo. Le bleu avec de l'indigo. Alors l'indigo a été également introduit et développé avec le coton et la pénétration de l'islam, donc 8e siècle. La robe a été étudiée par G. Cornu du Musée des Tissus de Lyon. Les motifs et techniques de tissage montrent une influence, sinon une origine septentrionale, cyrénaïque, sud-Tunisie. L'emploi de gaude est une tradition pré-islamique. Ce colorant sera peu à peu remplacé par le safran. L'indigo montre en revanche une influence nouvelle. Donc, en gros, l'histoire du textile pour cette partie du monde, c'est pas tant que le vêtement en coton qui est introduit au 8e siècle habille. C'est surtout que c'est un lieu permanent de métissage et de cohabitation textile et de cohabitation vestimentaire. Donc, quand on veut sectionner les choses, les hommes qui vont nus, les hommes qui vont avec des feuilles et du raffia, et puis les hommes qui vont avec des textiles tissés et qui, eux, sont la civilisation, on est dans une réécriture de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que les choses se sont toujours superposées jusqu'à aujourd'hui pour certaines régions. Et c'est Maïr Saul qui en parle le mieux, je trouve, qui est un chercheur qui a écrit un ouvrage en 97 sur ces notions-là de comment circulait l'islam dans ces régions-là. Alors lui, s'est intéressé au Burkina Faso, la boucle du Mouhoun, donc c'est près de Bobo-Dioulasso. Et il s'intéresse à cette cohabitation textile. Et voilà ce qu'il dit. Dans la boucle du Mouhoun, les masques des agriculteurs sont fabriqués avec des feuilles, des espèces sauvages et des fibres non tissées, tandis que ceux des communautés islamisées sont faits en cotonnade. L'opposition fibre-feuille, coton tissé, a une signification historique locale. La plupart des peuples d'agriculteurs de cette zone ont refusé de s'habiller. Et la tenue en coton était signe du statut de marchand, de lettré ou de guerrier. Il y avait effectivement une relation étroite entre l'habit et le métier de guerrier. Les tuniques des combattants étaient trempées dans des liquides médicinaux et des charmes étaient cousus dessus. C'est les chemises talismaniques dont on parlait tout à l'heure. Les agriculteurs, par contre, se fortifiaient en se lavant avec de l'eau, où on avait trempé des racines et des feuilles venant de leur patrimoine lignager secret. Ils cachaient aussi leur pudeur avec des feuilles et utilisaient des tissus de libère comme couverture et pagne. Il y a un registre dans lequel le masque en feuille et en fibre s'oppose à celui en tissu, non seulement par opposition nature-culture, mais aussi comme opposition entre la personne bobo, donc l'ethnie dont il parle, et le porteur d'habits, le guerrier lettré marchand, islamisé, musulman. Les bobos désignent l'ensemble des pratiques et conceptions que nous venons de survoler par un vocable qu'ils partagent avec les populations avoisinantes, l'anta. Ce nom leur permet de subsumer un assortiment d'éléments hétéroclites en une alternative convenable au discours clos de l'islam et du christianisme. Ce nom dérive également du concept islamique al-hada, dans lequel les juristes incluent les us et coutumes locaux qui peuvent devenir source de droit. Donc là, on est en plein dans l'enjeu du métissage et de la cohabitation textile au lieu d'être dans la confrontation textile. Ce que veut mettre en scène le conte que j'ai lu précédemment. Alors, quand on regarde la réalité, que ce soit des fouilles du 8e siècle, 7e, 8e siècle, qu'on regarde ce témoignage de Maïr Saul qui part en fait d'une période islamique très longue, hein, puisque la boucle du Moon, islamisée sûrement au 11e siècle, jusqu'à aujourd'hui, avec toutes ces questions-là qui ressurgissent dans une période récente. Donc ces lieux de métissage existaient avant, enfin ces tendances au métissage et cet environnement de cohabitation avec une cohabitation textile existaient avant l'arrivée de l'islam et du coton, contrairement à ce que le conte que j'ai lu laisse entendre. Et notamment ce qu'on observe, et là c'est une grande interrogation des chercheurs et des historiens, c'est que cette partie du monde, l'Afrique de l'Ouest, est environnée, que ce soit le royaume de Garamante, que ce soit les oasis de Karga, que ce soit le port de Berenike, de zones où transitent tout un tas de fibres tissées, coton, lin, laine, et où les populations ont une pratique de cohabitation textile. Et donc, quand je parle de textile, je parle évidemment non seulement de la manière de les tisser ou fabriquer, mais aussi de la manière de les coudre, ou la manière de les porter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le problème de la technique, il y a le problème aussi de qu'est-ce qu'on veut montrer du vêtement une fois qu'il a été fabriqué. Donc est-ce qu'on le porte comme en toge romaine, est-ce qu'on le porte comme en tunique, est-ce qu'on le porte en pagne, enroulé autour de soi, il y a toutes ces choses-là. Et donc cette région, avant le 8e siècle, est comme environnée de tout un tas de parties géographiques où tout ça existe. Donc ce qu'il faut croire, et c'est ce que les fouilles dont je vous montre là des pièces ont quand même fortement, je pense, montré, c'est que l'islam tel qu'il s'est propagé, qui est un islam tolérant, ibadite, de commerçants et non pas un islam politique, je parle vraiment du 8e siècle, après ça évolue, est un islam qui a été un accélérateur vestimentaire et qui a donné le goût du vêtement tissé, cousu, qui recouvre l'ensemble du corps. Et ce que vous voyez là, c'est les fouilles de Roger Bedeau, qui sont extrêmement connues, parce qu'on a un peu que ça, en fait, à se mettre sous la dent, pour les chercheurs ouest-africains. C'est des grottes Telem, donc falaise de Bandiagara, sud Mali. Une extraordinaire variété de textiles, datés entre le 11e et le 15e siècle, avec des complexités techniques qu'on retrouve plusieurs siècles après dans tout un tas de régions. Et Roger Bedeau conclut en disant le 11e siècle, c'est une période d'explosion textile, en coton, tissé, cousu, porté, qui couvre l'ensemble du corps. Toutes les régions commercent textile en Afrique de l'Ouest, donc on a sûrement des choses qui viennent, même peut-être de Nubie, qui transitent d'un territoire à l'autre, sur tout l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc on est dans une phase de cotonisation, mais aussi de développement du vêtement. Et donc vous voyez teinté en bleu le fameux indigo dont je parlais tout à l'heure. Alors je vais terminer, je vais sauter tout un tas de choses parce qu'on n'a plus vraiment le temps, par quelques exemples que j'ai pu trouver. Ben c'est ça, tuc, tuc, tuc. Le fameux boubou, voilà. Donc, pour savoir ce qui a bien pu se passer dans la tête des gens du commun, quand toute cette histoire leur arrive, quand les commerçants commencent à circuler, quand on leur propose du textile, ils ont des chefs religieux qui leur disent « si tu ne t'habilles pas, tu n'es pas un bon musulman, si tu n'es pas un bon musulman, gare à toi », et ainsi de suite, toute cette chose-là. Pour les gens qui voulaient accéder à des fonctions de notabilité, il fallait effectivement pouvoir aussi entrer dans cette codification textile et ces strates sociologiques. La question, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens et comment ça a bien pu se passer? Moi, je me suis intéressée à des témoignages qui datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui ont été relevés par des administrateurs coloniaux au Cameroun et dont parle Régine Levrat dans son ouvrage sur le coton en Afrique occidentale. C'est dans ce même ouvrage que j'ai trouvé le conte dont j'ai parlé précédemment. Je vais vous donner juste quelques exemples. de ce que les administrateurs coloniaux observent chez les populations qui sont présentes, sachant que la grande période aussi de révolution textile vestimentaire pour cette période, pour cette région de là, c'est à partir du XVe siècle, quand les comptoirs européens commencent à vendre des cotonnades, les fameuses cotonnades dont on a entendu parler tout à l'heure. Au début, elles viennent d'Inde, mais très rapidement, elles viennent de Manchester, de Liverpool, elles viennent d'Europe. C'est les wax, c'est les fancy prints, c'est les basins qui vont être commercialisés ensuite et qui vont complètement déstructurer les réseaux commerciaux précédents dont je parlais tout à l'heure. Et qui vont venir se greffer sur des pratiques vestimentaires qui ont été travaillées pendant des siècles dans cette région-là du monde. Donc je vous donne juste quelques exemples. Donc là, on a un témoignage de 1918. Au Sénégal, pays touché le premier, le coton ne se maintient que difficilement. Alors voilà ce que dit Yves Henry. Autrefois, chaque famille entretenait une plantation de coton assez développée pour suffire aux besoins de l'année. Et des tisserands nomades passaient ses journées dans les villages pour fabriquer des bandes d'étoffes qui servaient à la confection des pagnes. Ceux de dessous se portaient crus, mais les pagnes de dessus étaient habituellement teintées à l'indigo. Donc là, on retrouve des textiles qui ont leurs premières origines au XIe siècle, XIIe siècle, ainsi de suite. Mais depuis qu'on a substitué la monnaie d'argent au produit d'échange, le pagne qui servait de monnaie courante a perdu de sa vogue et de son prestige. Et les Noirs ont naturellement porté leur préférence sur les étoffes de superbe apparence que leur fournissent les commerçants européens et dont les couleurs criardes et les dessins de mauvais goût satisfont pleinement leur amour du clinquant et flattent leur vanité. Bon, c'est des écrits coloniaux, hein, donc voilà, on sait ce qu'il y a derrière. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est la plasticité du comportement des consommateurs, parce qu'on doit réellement appeler ça comme ça, face à des choses qui peuvent leur être imposées ou en tout cas qui les contraint en termes d'achat ou de circulation. Je vous donne un autre exemple, donc au Yatanga, donc on est au nord du Burkina. Chaque famille a son métier de tisserand avec lequel elle confectionne des bandes de coton de 10 à 15 cm de largeur, de couleur blanche, soit bariolées avec des raies vert, indigo, rouge ou jaune. Les paniers boubou, qui sont confectionnés avec ces bandes de coton, sont quelquefois grossiers, mais dans le sud, de réels progrès ont été faits au point de vue de la confection, progrès apportés par des dioulas venant du sud, de Ouagadougou et de Bobo. Bandes et pagnes constituent pour les habitants du Yatanga le produit d'échange par excellence. L'écoulement se fait principalement vers le nord, où les coris n'ont pas cours, et vers Saraféré et Tombouctou, où l'échange contre le sel est très rémunérateur. Là, on est en plein dans la construction de circuits commerciaux vraiment ultra locaux, qui sont nés du commerce du vêtement et du désir de vêtements. C'est-à-dire que les routes commerciales islamiques, enfin musulmanes, les routes commerciales européennes ont été challengées à un moment donné par du commerce intérieur, et donc du goût intérieur, et donc de la fabrication et de la distribution de vêtements beaucoup plus fines et beaucoup plus territorialisées. Et je vous cite une dernière qui est sur le Mali, le cercle de Ségou. La production du coton dans ce cercle donne lieu à une industrie assez importante de tissage qui se pratique principalement dans les villages de l'intérieur. En dehors des tissus en toile fine destinés à l'usage familial, on y fabrique des pagnes courants et des couvertures dites de Ségou qui sont très estimées. Donc il y a un goût aussi pour certaines pièces qui viennent de l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Donc Ségou, on est au Mali. Elles sont de deux types déterminés, soit rayures, soit carreaux blancs et bleus. Ces tissus, très en honneur au Soudan et jusque dans les colonies françaises et étrangères du Sud, se vendent à un prix élevé et constituent pour la région une source importante de revenus. Dans chaque village, quelques jeunes se chargent du coton récolté dans les familles et le font tisser sur place. Puis ils partent vers le nord ou vers le sud échanger les tissus contre du sel, des colas ou du caoutchouc et réalisent ensuite le produit de leur trafic. Donc on a tout un... une économie textile qui va se développer jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai mis cette photo pour vous montrer, là on est en 1920-1930, on est au Bénin, et on a des personnes qui effectivement sont le reflet de ce que je lis là, c'est-à-dire qu'on a le chef coutumier qui porte en toge, comme ça se fait toujours, selon les règles coutumières, un textile local traditionnel, et vous avez à côté de lui des femmes qui sont habillées en fameuse cotonnade européenne, et certaines qui ont même des robes cousues à l'européenne, tandis que d'autres ne sont que drapées. Donc ça, c'est le résultat de tous ces siècles d'histoire. Et je termine juste par, je sais que je suis affreusement un petit peu en retard, juste une dernière chose. Alors je ne sais pas si vous lisez l'anglais, ne vous inquiétez pas, je traduis. Tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, on en retrouve... c'est assez impressionnant, en fait, quand on fait un travail d'historien, de tomber là-dessus. On en retrouve toutes les problématiques et tout ce qui a pu se nouer tout au cours de ces siècles, quand des gens ont voulu imposer des vêtements et dire le vêtement c'est ça ou c'est pas ça, ça doit se porter comme ci ou pas comme ça, on ne met pas des feuilles, on ne se promène pas tout nu, voilà. On est au début de l'indépendance du Ghana, on est en 1958-1960, le docteur Kwame Nkrumah, donc le premier président, n'est pas du tout content, parce qu'au nord du Ghana, il y a des gens qui vont encore tout nus, comme il le disait à l'époque dans les communications. Donc il y a une campagne anti-nudité qui est lancée, parce que ça ne lui plaît pas du tout. Et il charge pour cela une dame qui s'appelle Anna Kudjo, qui va, elle, essayer de convaincre par la persuasion, donc on retrouve la persuasion du début, que ce n'est pas bien du tout de se promener tout nu au nord du Ghana. Donc je vous fais la traduction du texte. Les barrières que les impérialistes créèrent pour diviser ce qu'on appelait alors la Côte de l'Or, donc c'était l'ancien nom du Ghana, dans le but de nous tromper, ces barrières ont été brisées et réduites en cendres par notre grand leader, le docteur Kwame Nkrumah, fondateur de la nation. Maintenant que nous sommes unis, que nous ne faisons qu'un, notre manière de nous habiller, notre culture et notre mode de vie doivent également ne faire qu'un. Ce n'est pas acceptable que certains d'entre nous préfèrent aller nus, quelle qu'en soit la raison. Si c'est dû à la coutume, nous devrions prendre conscience qu'une telle coutume est démodée, et si cela est dû à la pauvreté, nous devrions tous travailler dur pour gagner notre vie. On s'expose à toutes sortes de dangers quand on va nu. De plus, la pratique de la nudité n'est pas en conformité avec la culture ghanéenne. Il y a quelques individus qui ne vont pas vraiment nus. Ils mettent au moins quelque chose sur eux, mais ils sont trop pauvrement vêtus. Votre manière de vous vêtir doit être en adéquation avec le vêtement ghanéen. Et voilà ce que répond un paysan à qui on fait la leçon cette époque. Donc il a on appelle ça une assistante sociale ou quelqu'un qui vient le voir. Et donc il lui dit « Mon ami, entre dans la cour. Là, tu verras mes 6 épouses. Elles portent toutes des feuilles. Elles ont des habits, des pagnes, pour les jours de marché, mais pas pour les autres jours. C'est parce qu'on ne peut pas vendre tout notre millet pour acheter des vêtements, sinon nous mourrions de faim. » Pour nous, la vie est plus importante que les vêtements. Vous, gens du sud, vous êtes bénis, vous avez du travail. Ici, il y a des jeunes garçons qui ont fini l'école et on ne connaît personne dans le sud qui peut leur trouver du travail. Ils sont revenus travailler à la ferme en guenille. Dites à l'homme blanc qui vous envoie, il y a toujours ce... qu'il y a de la colonisation derrière, de nous donner des emplois et nous mettrons des habits. Donc, le vêtement... c'est aussi un objet de résistance et de rébellion. Si ça allait en 1960, ça allait être sûrement au 8e siècle. Voilà. Merci. J'étais un peu longue, excusez-moi. J'ai peut-être un peu brouillonne aussi parce que j'ai été d'un pays à l'autre et d'une période à l'autre. Mais voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Terrain. Donc vous avez fait des études de terrain. Vous pouvez nous dire 2-3 mots sur comment ça se passe
Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé mes terrains en 98. J'en ai fait, je ne sais même pas combien, peut-être 20 ou je ne sais plus. J'ai commencé par le coton, la production cotonnière. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre... Il y avait quelque chose qui clochait, je trouvais, dans la manière dont se développait un certain nombre de pays, particulièrement en Afrique francophone. C'est-à-dire qu'il y avait une économie de rente basée uniquement sur une production d'une matière, donc ce qui est une aberration. Et en remontant l'histoire, j'ai compris qu'en fait c'était lié à tout ce que je viens de raconter là, c'est-à-dire que ce coton-là qui a été imposé par les colonies, voilà, la période des colonies, ça remontait à tout ce substrat islamique qui a cette histoire-là. Donc je me suis intéressée après au textile lui-même. Donc par exemple en région Ewe. Le problème, c'est qu'on n'a évidemment pas de textile archéologique, qu'il n'y a pas de conservation, qu'il n'y a pas de culture de la conservation, il n'y a pas de culture muséale au sens de ce qu'on vient de voir précédemment. Donc on travaille beaucoup sur l'observation des textiles actuels qui sont fabriqués par les tisserands, en essayant de comprendre quels sont, dans les techniques, dans les motifs, dans les couleurs, dans les circuits de commercialisation, dans les goûts des consommateurs, les évolutions. Qu'est-ce qui a été créé il y a un siècle? Qu'est-ce qui a été créé il y a deux siècles? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans des photos de textiles comme là, j'ai montré... Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais un des bonnets qui a été retrouvé, qui date du XIe siècle dans les grottes Telem de Bandiagara, il y a des motifs plangis qu'on retrouve aujourd'hui en région Ewe. Donc je sais que là, il y a 10 siècles de conservation d'une technique. Il y en a clairement, il y a des motifs qui s'appellent, par exemple, le motif Fatih Nkrumah, qui est la femme de Kwame Nkrumah. Clairement, ça ne peut pas remonter avant 58. Donc voilà, donc ça, c'est sur les tisserands, les techniques. Ensuite, il y a un énorme travail de qu'est-ce que la population au sein de laquelle on travaille dit de sa propre histoire textile. C'est pour ça que moi, ce compte m'intéressait, parce que c'est très rare d'avoir quelque chose d'aussi cohérent sur tous les aspects de la filière textile pour une période très ancienne, en fait. Et donc là, vous devez aller voir des leaders politiques, des commerçants, mais aussi des gens du commun, comment ils portent leurs vêtements, qu'est-ce qu'ils en connaissent, qu'est-ce que leur a transmis leur famille. Et puis, du côté de la religion, donc soit animiste, soit islamique, essayer de comprendre est-ce que le textile a été intégré à du religieux. Parce que effectivement, quand je disais tout à l'heure, on sait qu'à Berenike, que dans l'oasis de Karga, que le royaume de Garamante, il y avait une cohabitation textile et une culture textile tissée extrêmement importante. Bah, la plupart du temps, on s'est retrouvé dans des tombes. Donc c'est des endroits très particuliers. On ne peut pas, à partir de ça, dire Monsieur tout le monde s'habillait comme ça ou politiquement c'était comme ça. Donc il faut pouvoir avoir énormément de pièces de puzzle associées ensemble, et c'est de toute façon, ça va peut-être pas faire très sérieux de dire ça, une recherche impressionniste. C'est-à-dire que, comme là je viens de vous le faire, c'est par touche que vous pouvez essayer de comprendre. Mais
les gens sont réceptifs à vos recherches, que ce soit oui. les populations, elles comprennent l'enjeu qu'il y a derrière.
Les responsables coutumiers, toujours. C'est le politique, hein. Propager l'histoire d'une société et pouvoir parler de sa profondeur historique, c'est toujours une légitimation du pouvoir local. Donc, c'est aussi très. Il faut faire très attention. Mais au moins, on a des gens. Voilà. Et les populations, elles n'ont pas un rapport à l'histoire qui, comme chez nous, de conservation. On est dans des sociétés orales, donc l'histoire, elle est faite pour être transformée, pour préparer le futur. Elle est faite pour être malaxée, partagée, déclinée, pour pouvoir à chaque fois réajuster les enjeux et les tensions politiques locales. Donc le textile est de l'ordre de l'évidence. Mais les gens savent très bien qu'ils portent un patrimoine. Mais ils n'ont pas le même rapport de conservation. Voilà.
C'est paradoxal, parce que c'est évident qu'il y a une valeur patrimoniale, mais l'intérêt à le conserver ou à le promouvoir n'est pas évident pour eux.
Non, et surtout, c'est la même question que les bibliothèques du Sahara, les manuscrits. Le grand problème, c'est que tout ce qui a une puissance historique potentielle, c'est un ferment potentiel de division aussi. Donc, les textiles accumulés, les pagnes accumulées dans les familles, par exemple, ce qui existe, hein, très ancien, c'est comme les manuscrits, on ne les montre pas à l'étranger. C'est très long, très compliqué, c'est ferment de division, voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'on me donne ça en pâture sous prétexte que ça fait avancer la recherche ou je ne sais quoi. Enfin, la personne l'a très bien dit, c'est très, très intime, en fait. C'est très politique, a priori, mais c'est très, très intime. Ouais. Ouais. Merci. Oui, pardon.
J'aurais une question. Il y a des régions de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est tellement différent d'une région à l'autre.
Où il y a dans les cérémonies encore un usage de feuilles, oui. De fibres, oui. d'écorce, de libère. Enfin, est-ce que dans ces cas-là, il y a une opposition claire entre vêtements tissés et vêtements faits de cette manière?
Oui, alors, moi, ce que je trouve passionnant sur ces territoires-là, c'est que tout est syncrétisme. C'est-à-dire que les populations, naturellement, trouvent... C'est ce que dit Maïr Saul, hein, quand il dit il y a un terme, aussi bien du côté bobo que du côté du langage coranique, pour recouvrir toutes ces réalités qui arrangent tout le monde, finalement, un petit peu à un moment donné. Et si on veut cohabiter ensemble, il faut qu'on s'entende. Donc, on ne peut pas dire... il n'y a que cet usage ou que cette façon de faire, sinon c'est le ferment de la guerre, hein. Pour vous raconter une toute petite histoire, il y a des témoignages de voyageurs arabes dans ces contrées-là qui expliquaient qu'au tout premier temps de l'islam, donc on est 9e, 10e siècle, les croyants musulmans parfois allaient voir les chefs animistes quand une prière coranique ne marchait pas pour certaines choses. Il faisait confiance au chaman ou au chef coutumier avec sa propre religion à lui, son propre savoir à lui, pour essayer de faire réussir une action. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette vision que ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire. Donc, dans tout un tas de cérémonies, moi-même, dont on m'a témoigné ou que j'ai pu voir, on trouve ces feuilles, ces masques, ces perles, les scarifications ou encore... une place aussi. Pour moi, c'est un vêtement, une scarification, même si c'est dans la chair, mais ça habille. Comme un tatouage. Donc, il y a une compréhension bien pensée qu'on a intérêt à faire fusionner des choses qui ont l'air a priori en opposition, parce qu'on vit tous ensemble et que chaque culture a du positif et du négatif. Et on a intérêt à prendre le meilleur de chacune pour arriver à faire pleuvoir la pluie, à guérir une maladie, à avoir un bon destin politique ou un bon mariage dans son lignage ou une bonne récolte. Enfin voilà, ce n'est que quand on est au niveau du suprapolitique, donc du national ou du sous-régional, que là on a de l'instrumentalisation. C'est pour ça que j'ai introduit en parlant d'Al-Qaïda et Boko Haram, parce qu'ils ont énormément joué là-dessus aussi. Boko Haram, il y a des témoignages quand ils arrivaient dans certains villages, enfin quand ils arrivent d'ailleurs, parce qu'ils continuent, ils triaient les filles en pantalon et celles pas en pantalon et ils les assassinaient parce que c'était des chrétiennes. Donc il y avait une lecture textile. Alors que pour ces personnes-là, elles ont le pantalon le dimanche, elles ont le boubou le samedi, elles ont les pagnes artisanaux traditionnels pour peut-être les funérailles. Ça n'a pas de sens en fait. Au quotidien, pour les populations, de dire, c'est, voilà, il y a une frontière, et attention, vous êtes pur ou vous êtes impur, vous êtes civilisé ou vous êtes sauvage.
Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles du musée national du Mali? Parce que moi, j'ai vu des textiles de Télém, notamment, il y a 20 ans. Donc, dire qu'il n'y a aucun souci de conservation en Afrique me semble un peu court. Merci.
Il y a un énorme problème de conservation. J'ai pas dit il y a pas. J'ai dit il y a un gros problème de conservation, puisque déjà les textiles, c'est très compliqué à conserver, à trouver, mais à conserver. Je parle de textiles archéologiques, hein, évidemment.
On est d'accord, oui.
Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai vu des musées, des tentatives de muséographie au Ghana. Mais c'est tout de suite récupéré politiquement par les différents chefs coutumiers et le niveau national ensuite. Donc c'est des conflits sans fin qui ont un enjeu en fait autre que celui de la préservation ou de la transmission aux générations futures. Ça devient un problème politique local et territorial. Ça c'est un premier souci, c'est-à-dire que c'est pas la même notion de à quoi ça sert de conserver. C'est pas un absolu. Et deuxièmement, il y a un énorme problème de moyens. Voilà, chercheurs, spécialistes de conservation des textiles. Là, il y a une pétition pour le musée des textiles de Lyon. Imaginez si ça arrive en France, imaginez dans un pays comme le Mali, où Bamako a failli tomber aux mains des islamistes. Enfin, C'est voilà. Donc je sais qu'il a eu effectivement le musée des textiles au Mali avait besoin de fonds, hein, comme celui qui est en Côte d'Ivoire, qui a été aussi au moment de la guerre civile en Côte d'Ivoire en 2002 attaqué, détruit et ainsi de suite. Mais je ne dis pas qu'il n'y a aucune conservation. Non, je dis c'est difficile. Et je dis que à chaque pays sa vision de ce que c'est que conserver, muséographier et transmettre. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est qu'on est... Voilà. Pas de valeur absolue, en fait. Et il y a un énorme, de toute façon, problème de moyens. Enfin, ça, c'est évident. Voilà. Évident.
Je vous remercie. Je vous propose une dernière question. Juste une question de quelqu'un qui me connaît mal ce soir-là. Est-ce que vous pouvez préciser un peu la chronologie que les fouilles dont vous avez parlé établies entre le 8e, enfin d'après ce que j'ai compris, il y a des fouilles qui étaient plutôt 8, enfin, ouais. Il y a des choses plutôt 8e siècle, et ensuite des choses plutôt 11e, 15e, c'est ça ?
Voilà, alors pour cette partie-là, vraiment Afrique de l'Ouest, je ne déborde pas sur Bérénike, Karga, Garamante, où on a des traces de fusaïole, donc la petite boule qui permet de filer le coton, qui peut être une trace de culture cotonnière. Un point de vue anthropologique, je ne parle pas uniquement des graines ou des fibres type des cordes. Vraiment, sur la partie Afrique de l'Ouest, telle que la carte l'a montré, on a des textiles tissés en laine, donc on n'est pas sur le coton. Ça a été retrouvé dans des tombes, des tumulus au Burkina Faso, à l'est, par Sanja Magnavita. Qui date entre le 1er et le 6e siècle, la majorité des textiles étant du 5e, 6e. Après, oui, après, toujours après. Avant, on n'a pas de traces. Je ne dis pas qu'on n'a rien, parce que quand on regarde les gravures sur les rochers du Sahara, on trouve des choses qui ont l'air d'être des vêtements tissés. Mais bon, avec ça, on ne va pas très loin en matière de vérité historique. Donc ça, c'est pour la technique de tissage. Moi, la première trace réellement d'un vêtement en coton, c'est le croquis que je vous ai montré, sachant que à 99%, je pense que ce voile de coton, donc qui date du 7e, 8e siècle, dans la datation carbone, en fait, est arrivé par les routes de commerce transsahariennes du nord, donc du Maghreb.
Donc c'est islamique,
du coup, oui, parce qu'à cette période-là, le Maghreb est islamisé. Pas l'Afrique de l'Ouest, mais le Maghreb, oui. Mais la grosse collection qui nous permet de dire, OK, on a un certain nombre de choses absolument certaines sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité, ainsi de suite, c'est les grottes Telem, où on a du 11e, 15e, et où là, Roger Bedeau est effaré de voir la continuité des techniques sur 4 siècles, la densité de textiles qu'ils retrouvent et les provenances sûrement très diverses pour une période 11e où, en fait, on est 2 siècles après le début de l'islamisation de cette région. Donc, c'est voilà. Donc on est un peu pauvre, c'est vrai, j'admets. Mais voilà, sur vraiment le textile tissé, hein, je parle. Après, je ne rentre pas dans les graines, parce qu'on trouve des graines dans des endroits, des bouts de fibres, de coton, mais voilà. Sur le tissage vraiment de la fibre.